na makanisi lelo ebele pona bino po bino bato bokena na malita tobosana bino te.
Radio de la paix, il est 7h. Le journal de 7h, Paul Bénédicte Bolou.
Il est 7h, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de ce lundi 27 mars. La région du Béquet sera dotée dans quelques mois d'infrastructures majeures dédiées à la formation professionnelle des jeunes. Le Premier ministre ivoirien a procédé le vendredi 24 mars au lancement des travaux du lycée professionnel sectoriel de formation au métier agricole à Botro. La cellule de coordination du projet de transport d'Abidjan a initié une série de visites sur les différents ponts en cours de réalisation, dont le district d'Abidjan le vendredi 24 mars, d'un coût global de 631,26 milliards de francs CFA. Toutes ces infrastructures routières seront livrées fin juillet 2023. Hors de la Côte d'Ivoire, 17 personnes prises en otage le samedi 25 mars dans le nord-est de la RDC ont été exécutées hier dimanche par la milice communautaire Codeco. Et puis dans les 5 dernières minutes de ce journal, juste après la page internationale et la revue des titres de vos journaux, présentée par Aoussi Potin, vous suivrez l'invité de la rédaction, Dr Gaoussou Karamoko, directeur général de la diaspora, en compagnie de Soro Adam. Ça se prononcera sur les violences racistes et xénophobes en Tunisie contre les Noirs de l'Afrique subsaharienne, dont des Ivoiriens. Voilà pour l'essentiel. Cérémonie de pose de première pierre du lycée professionnel sectoriel au métier agricole de Botro dans la région du Béquet. À cette occasion, le Premier ministre ivoirien Jérôme Patrick Kachi a interpellé les cadres de la région quant à leur responsabilité à s'unir et à s'entendre pour impulser le développement local. C'était le vendredi 24 mars 2023. Le reportage de Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Béquet.
Tout peuple aspire au développement et au bien-être selon le Premier ministre qui invite donc les cadres de la région de Béquet en général et ceux du département de Botro en particulier à transcender leurs divergences. Jérôme Patrick Hachi.
Entendez-vous, pour le bien de vos populations, ne ratez pas le train parce que les autres régions ne vous attendront pas et ceux qui n'auront pas eu l'audace de voir suffisamment tôt seront en retard. Ne vous plaignez pas. Rien n'aura été fait qu'on dira que ce sont juste des litanies et du verbiage cru.
Il souligne que la seule bataille qui mérite d'être menée est l'amélioration des conditions de vie des populations.
À la fin, c'est sous cette terre que nous serons tous. Les seules choses qui resteront du passage de ceux qui ont choisi pour leur vie de faire de la politique, ce sont les œuvres qu'ils auront laissées derrière eux. Et ce sont ces œuvres qui parleront pour eux et qui garderont dans les mémoires de génération en génération de leur population leur nom.
C'est aussi ce que pense le porte-parole des populations de la ville de Diabo, qui l'a fait savoir à l'occasion de la pose de la première pierre du lycée professionnel technique multisectoriel de la localité, le 24 mars 2023, à Saoré, Kouna, Jacques.
La politique ne vaut que par le bien-être qu'on procure à nos parents.
Il exhorte par ailleurs les populations à soutenir les autorités dans leur volonté de lutte contre la pauvreté. Joseph Assalé, Botro, Radio de la Paix.
Rendons-nous dans la région des lacs, à présent précisément dans le district autonome de Yamoussoukro, où un atelier de restitution et validation des résultats de réflexion sur les pistes d'action pour une meilleure prévention de la violence politique en Côte d'Ivoire s'est tenu le vendredi 24 mars. L'initiative est d'Indigo Côte d'Ivoire, organisation non gouvernementale ivoirienne qui œuvre pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Prévention de la violence politique et renforcement de la cohésion sociale par le dialogue en Côte d'Ivoire. En ligne de Yamoussoukro, Émile Yao.
Mise en œuvre dans 8 districts du pays sur la période de mars 2022 à août 2023, ce projet vise à contribuer à la prévention et à la réduction durable de la violence, l'apaisement des futurs processus électoraux et le renforcement de la cohésion sociale à l'échelle des 8 districts concernés. Thérèse Sanon, chef de projet à Indigo, Côte d'Ivoire.
Dans le cadre de ce projet, nous avons entrepris une étude sur les dynamique de violence au niveau de la Côte d'Ivoire dans 8 districts. Nous sommes à l'étape de la restitution de ces résultats préliminaires que nous mettons en discussion avec les participants afin de les affiner, de les nuancer, de les compléter. Donc globalement, on peut retenir que l'atelier a atteint ses objectifs.
Les participants à l'atelier ont ainsi été amenés à réfléchir en travaux de groupe sur les pistes d'action et recommandations pour une approche efficace et contextualisée de prévention de la violence politique, explique Arsène Kounan, chercheur facilitateur à Indigo, Côte d'Ivoire.
Nous travaillons donc à réfléchir avec les communautés, à identifier les défis auxquels ces communautés sont confrontées et à essayer donc de générer des pistes d'action pour pouvoir donc régler ces défis ou prendre en charge ces défis-là.
Une approche que salue Yeo de Ningida, sous-préfet de Yamoussoukro.
Je voudrais vous dire merci en tout cas pour les actions que vous menez donc pour la recherche de la paix et la cohésion de Yamoussoukro.
On prépare à cet atelier des autorités administratives et coutumières, des élus locaux et des représentants des partis politiques et de la société civile. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Lutte contre l'extrémisme violent. La Côte d'Ivoire fait partie des 5 pays d'Afrique de l'Ouest bénéficiaires du plan stratégique de prévention des conflits et de la stabilité mis en œuvre par les États-Unis sous l'impulsion du président Joe Biden. Ce plan, qui sera exécuté pendant 10 ans, permettra de renforcer la sécurité, la démocratie et la cohésion communautaire. 3 hauts fonctionnaires du département d'État américain ont été reçus le vendredi 24 mars par Madame l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis. Il était question de présenter ce plan décennal de mise en œuvre de cette stratégie américaine. Le reportage de Ghislain Koulibaly.
Michael Heath, Greg Lodiafo, Toby Bradley, ces 3 hauts fonctionnaires du département d'État américain sont en mission pour expliquer les axes clés de cette stratégie. Michael Heath, du Bureau des Affaires africaines.
Nous devons également voir les soutiens à apporter à court terme au niveau sécuritaire. Nous devons aussi tenir compte des problèmes tels que la pauvreté, les opportunités économiques pour les jeunes, l'expansion des services publics et gouvernementaux, même dans les zones les plus reculées du Nord. Cela inclut les prestations de santé, l'éducation et le dialogue intercommunautaire.
Ce travail se fera conjointement entre l'État de Côte d'Ivoire et le gouvernement américain. Jessica Davisba, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire.
Le plan de mise en œuvre sera créé en partenariat avec le gouvernement et le peuple de Côte d'Ivoire. Le plan identifie les investissements dans des partenariats à tous les niveaux et soutient les initiatives menées par l'Afrique, ce qui élève les approches bilatérales et régionales pour prévenir la violence et faire progresser la sécurité. Cette visite de 3 hauts fonctionnaires pour se concentrer sur l'état de droit, la justice, la sécurité est le début de notre mise en œuvre de ce plan.
Dans cet élan, la Côte d'Ivoire prendra part au 2e sommet mondial pour la démocratie les 29 et 30 mars 2023 à Washington DC.
Projet de transport urbain d'Abidjan ou Pétua, nous l'annoncions en titre, une visite terrain des chantiers du dit projet par les parties prenantes, notamment le district autonome d'Abidjan et des journalistes, a eu lieu le vendredi 24 mars. Ils ont visité successivement le 4e pont reliant Yopougon à Adjamé, le pont de Gesco situé au début de l'autoroute de Dabou, ainsi que la route de sortie est et enfin la Y4 à EBMP. Jean-Claude Mabéa a suivi cette visite. Visite à son compte rendu.
Au terme de plus de 4 heures de visite des 3 chantiers du Pétua, le chef d'unité route du Pétua, Ageroute, a fait le point de l'état d'avancement des travaux. Et où est Kodjo fidèle?
À ce jour, il faut noter que la route de Dabou a un taux de 80% d'avancement. Celle de la route de la prison civile a un taux de 75% et la Y4 a un taux de 70%. Évidemment, les délais sont figés et ne devront plus bouger. Pour celui de la route de Dabou et de la prison civile, nous avons comme délai d'achèvement le 30 juin 2023. Par contre, celui de la Y4, le délai pourrait aller jusqu'à la fin de l'année.
Thiébi Loutra, la vice-gouverneure, représentant le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan et chef de délégation, s'est félicité du taux d'exécution des travaux avant d'encourager la cellule de coordination du Pétua Ageroute à tenir les délais.
Comme on le dit souvent, la route précède le développement. Nous voyons que vraiment la Côte d'Ivoire par un en chantier. Les travaux sont beaucoup avancés et la date limite est fin juin, je crois. Et j'ai vu et je pense que ceux qui ont en œuvre de finaliser ces ouvrages, en tout cas, je les encourage et je leur demande de se mettre véritablement au travail pour que nous puissions avoir une satisfaction totale.
Cette visite de terrain s'inscrit dans le cadre des activités de communication à l'endroit des parties prenantes et du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. À noter que d'autres visites de parlementaires et de l'UVIC aussi sont prévues dans les jours à venir.
Rendons-nous à Korogo où le conseil d'administration de l'organisation interprofessionnelle agricole des acteurs de la filière mangue de Côte d'Ivoire élargi au collège des producteurs commerçants et des transformateurs se sont concertés le jeudi 24 mars dans un réceptif hôtelier dans la cité du Poro. À l'occasion de cette rencontre entre les acteurs de la filière, plusieurs annonces ont été faites, notamment celles relatives à l'ouverture de la campagne 2023 au prix de la caisse Bord-Champ et au prix du kilogramme de la mangue. Témoin pour Radio de la Paix, Marcel Bouni.
Pour cette campagne de mangue 2023, nous avons décidé que le prix fixé à l'usine serait de 200 francs le kilo et que le prix Bord-Champ de la caisse de mangue de 20 kilos serait de 2400 francs. La date d'ouverture pour cette campagne de mangue a été décidée d'un commun accord avec les producteurs et les commerçants à la date du 5 avril 2023.
Cette annonce de Pascal Nambélé-Sinisilué, président de l'Intermangue, fait suite à un aspect essentiel soulevé par Flora Hassine, déléguée de l'Intermangue, qui doit être de mise pour cette campagne 2023.
Au niveau de la production, si on améliore les rendements, on pourra avoir un prix d'achat qui sera plus compétitif, mais qui, du fait de l'amélioration des rendements, permettra aux producteurs de rentrer plus d'argent et de travailler la qualité. Parce qu'on a la chance en Côte d'Ivoire d'avoir une mangue qui est très bonne et je pense qu'on ne doit pas avoir peur de la concurrence. C'est qu'on doit s'équiper pour affronter la concurrence et prendre des parts de marché, même s'ils sont présents.
Dans cette optique, elle a ajouté.
On espère que le travail va être fait au niveau du champ, parce que c'est là où tout commence, parce que si les vergers sont bien traités et qu'il y a une véritable lutte contre la mouche du fruit, oui, mais en respectant également tout ce qui est règles sanitaires, c'est-à-dire le ramassage, l'entretien des vergers, ça va permettre de nous sécuriser. Il y a une visite qui est prévue de l'Union européenne pour s'assurer que nos vergers sont bien entretenus et on voudrait que cette visite sorte un succès pour la Côte d'Ivoire et qu'on soit toujours présent sur le marché européen.
Une présence sur le marché européen qui requiert aussi un renforcement des capacités des producteurs sur les bonnes pratiques et la gestion d'une exploitation agricole. Merci.
En page internationale, en RDC, 17 otages ont été exécutés dans le nord-est hier dimanche dans par la milice communautaire Codeco coopérative pour le développement du Congo. Nous sommes en RDC. Les 17 personnes avaient été prises en otage par les miliciens dans le territoire de Djougou, à environ 45 km au nord de Bounia, province de l'Ituri. Hier dimanche, ces otages ont été exécutés au village de Pichi, bastion du Codeco. Depuis fin 2022, les morts se comptent par dizaines presque chaque semaine en Ituri, une province riche en or. Pour rappel, plus d'une trentaine de personnes, dont des nombreuses femmes et des enfants, ont été massacrées le 18 mars dernier dans plusieurs villages. Les miliciens Codeco ont été accusés de cet assassinat. C'est l'heure de la revue des titres des journaux ivoiriens. Pour ceux à Aoussi Potin nous a rejoint dans ce journal. Bonjour Aoussi.
Bonjour à vous Bénédicte, bonjour à toutes et à tous. À lire à la une de nos tabloïds parus ce jour, divers sujets. Au plan politique, s'intéressant à la tenue prochaine du 7e congrès extraordinaire du PDCI, le quotidien Le Patriote prévient, Bédier va couper des têtes et de saluer... et de donc de saluer l'interrogation et de soulever du moins l'interrogation suivante. Les anticongrès vont-ils laisser faire? Moins alarmiste et sur le même sujet, dernière heure au monde s'exclame à sa une, annoncé pour le jeudi 30 mars, pourquoi un congrès extraordinaire du PDCI-RDA maintenant? Préparatif du 7e congrès extraordinaire, les femmes du PDCI-RDA lancent un appel solennel, titre pour sa part « L'héritage ». En tout cas, c'est l'effervescence, si on en croit certaines unes de journaux parues ce jour au niveau du PPSCI, à l'approche de la première édition de la fête de la Renaissance, Bénédicte Boulou. En tout cas, c'est ce que nous apprend le quotidien d'Abidjan à sa une, avec le titre suivant, « Forte mobilisation autour de la Renaissance, de la fête de la Renaissance ». Et ce quotidien d'anticiper, plus de 3 millions de personnes attendues à Yopougon, fief du PPICI. Et puis, autre sujet qui pourrait donc vous intéresser ce jour en une de vos tabloïdes parus. Nous vous invitons aussi à vous intéresser à ce reportage du quotidien Le Jour qui propose donc de revenir sur la renaissance de la ville de Boaké avec le titre suivant « Passer les années de crise, Ouattara redonne vie à Boaké ». Terminons cette revue des titres avec l'Inter qui s'intéresse au volet sécuritaire avec le titre suivant « Prévention des conflits, stabilité ». Voici le plan des USA pour la Côte d'Ivoire.
Merci à Aussi Potin qui sera des nôtres dans l'édition de 8h pour le second passage de cette revue des titres de vos journaux sur Radio de la Paix. L'invité de la rédaction de ce lundi est Dr Gaoussou Karamoko, directeur général de la diaspora au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Avec lui, il va être question du dossier des violences racistes et xénophobes en Tunisie, dirigé contre les Noirs de l'Afrique subsaharienne, dont des Ivoiriens. Combien d'Ivoiriens vivant en Tunisie, qui ont pu être rapatriés en Côte d'Ivoire et combien reste-t-il à ramener au pays? Docteur Gaoussou Karamoko répond aux questions de Soro Adams.
Bonjour, monsieur le directeur général Gaoussou Karamoko.
Bonjour, monsieur Soro.
Quel point faites-vous en ce qui concerne le dossier des Ivoiriens en Tunisie?
Le point qu'on peut faire, c'est de dire qu'aujourd'hui, après la première vague du retour volontaire, nous avons 766 personnes qui ont pu regagner la Côte d'Ivoire en toute sécurité et qui ont été pris en charge de leur arrivée par l'État de Côte d'Ivoire via les structures techniques dédiées à leur prise en charge, notamment le ministère de l'Intérieur, la question de sécurité, les questions d'authentification d'identité, les questions de sûreté, mais aussi d'autres structures, notamment le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, pour la prise en charge des enfants et des bébés qui étaient dans le lot. On avait par exemple 45 bébés de moins de 2 ans, d'autres structures, notamment le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique, qui aussi fait un travail d'accompagnement réel avec des projets qui sont mis à disposition de la jeunesse, conformément à la grande conception cette année, Côte d'Ivoire, l'année de la jeunesse 2023. Donc, pour ce retour, au total, 766 personnes qui sont rentrées de Tunisie et qui sont dignement installées chez eux, dans leur famille.
Et combien sont attendus dans les jours à venir? Y a-t-il beaucoup d'inscrits?
On va avoir le début de la seconde vague. Ça va commencer le 23 mars 2023. Le premier vol pour la seconde phase, qui va faire à peu près plus de 1072 personnes. Il va avoir donc 4 rotations de gros porteurs, 23, 25, 27 et 29 de ce mois de mars. Chaque porteur pourra avoir en son sein 268, ça c'est le chiffre pour être précis, donc 268 personnes en tant que passagers, mais peut-être un peu plus avec les bébés qui peuvent accompagner. Au total, plus de 1072 personnes pour la seconde vague, le retour volontaire en Côte d'Ivoire.
Monsieur le directeur général Gaoussou Karamoko, combien d'Ivoiriens sont recensés aujourd'hui en Tunisie?
Au début, c'était plus précis, les chiffres étaient plus stables. Mais aujourd'hui, on ne peut pas donner de chiffres réels parce que, comme vous le savez, la situation interne a un peu évolué. Et donc, les inscrits d'hier ne sont pas forcément les inscrits d'aujourd'hui. On ne peut pas mettre l'accent sur les inscrits en tant que tels. Par contre, on peut indiquer en toute sérénité et objectivité que 766 sont entrés et que plus de 1112 vont rentrer à ça, c'est des certitudes. Maintenant, les inscrits, c'est un peu plus difficile maintenant à le dire parce que c'est un peu fluctuant quand même.
Mais combien d'Ivoiriens étaient recensés en Tunisie avant l'éclatement de cette crise?
Officiellement, on a plus de 6500 Ivoiriens inscrits à l'ambassade, hein, qui sont dans une situation reconnue par l'ambassade, donc 6500 personnes. Mais on sait que si on prend en compte tous ceux qui sont en situation d'irrégularité, c'est sûr que ce chiffre est un peu en deçà de la réalité. Mais les chiffres que nous avons à l'ambassade, c'est 6500 personnes. Ce qui est différent du chiffre d'inscrits pour le retour volontaire. Parce que c'est deux chiffres différents. 6500 inscrits sur les fichiers de l'ambassade, c'est ce qui est reconnu. Mais évidemment, pour le retour volontaire, vous verrez certainement des gens qui ne sont pas inscrits forcément à l'ambassade, mais qui figurent sur les listes de retour au pays, vu que c'est une situation de crise et que chacun devait pouvoir trouver une solution.
Mais ces 6500 reconnus, enregistrés, reconnus à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie, quel est leur travail exactement?
Or, c'est comme je le dis, hein, la Tunisie, c'est plusieurs tableaux à la fois. Certains sont dans des situations de régularité, donc des étudiants. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Tunisie octroie des bourses d'études à la Côte d'Ivoire et à d'autres pays africains. Donc vous avez des étudiants africains, précisément ivoiriens, qui sont en Tunisie, donc qui font des études. Vous avez aussi en Tunisie ce qu'on appelle le tourisme médical. Beaucoup y vont parce qu'il y a une réputation de ce pays en matière de soins de santé. Et donc vous trouvez beaucoup de malades, de personnes qui ne se portent pas bien, qui vont vers la Tunisie pour se soigner. Vous avez aussi, quoi qu'on dise, des gens qui ont une existence légale, même si c'est très minime, une existence légale et donc qui travaillent dans des structures avec une forme de reconnaissance de l'État tunisien, mais j'avoue que c'est un nombre assez minime. Et puis vous avez toute la grande masse de migrants qui essaient de transiter par la Tunisie pour regagner l'Europe, donc qui constituent le gros lot de nos compatriotes dans ce pays. Mais en général, ils font juste des petits métiers, je ne dirais pas métiers. Comme on dit en Côte d'Ivoire, ils essaient de se débrouiller dans quelques activités. On entend souvent parler d'aide-maçon, de petites menuiseries, travailler dans quelques restaurants pour subvenir à leurs besoins. C'est vraiment de la subsistance, tenir le coup, le temps d'avoir la possibilité de traverser. Et donc, c'est vraiment des gens qui sont dans des milieux, non seulement assez clandestins parce qu'ils ne sont pas reconnus, mais aussi parce que bon, il faut qu'ils se débrouillent le temps d'avoir des possibilités ailleurs.
Je vous remercie, monsieur le directeur général Gaoussou Karamoko.
Merci, monsieur Soro, à bientôt.
Docteur Gaoussou Karamoko, directeur général de la diaspora au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, invité de la rédaction, répondait à Soro Adams à fin de ce journal. Le rappel des principaux titres. La région du Békè sera dotée dans quelques mois d'infrastructures majeures dédiées à la formation professionnelle des jeunes. Le Premier ministre ivoirien a procédé le vendredi 24 mars au lancement des travaux du lycée professionnel sectoriel de formation aux métiers agricoles à Botro. La cellule de coordination du projet de transport d'Abidjan a initié une série de visites sur les différents ponts en cours de réalisation dans le district d'Abidjan le vendredi 24 mars d'un coût global de 631,26 milliards de francs CFA. Toutes ces infrastructures routières seront livrées fin juillet 2023. Fin de ce journal, prochain point de l'actualité, 8h sur Radio de la Paix.